Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres me transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Ah là là, quelle fin! Salut Pauline!
Salut, salut!
Bonjour à tous, une 41e émission de Par le bout de la lorgnette. Alors j'allais faire une blague en disant que Valérie avait un genou par terre pendant l'hymne américain, mais Valérie n'est pas encore arrivée, et Héloïse non plus, alors on va peut-être faire cette émission à deux, Pauline.
Ça va être génial.
On a plein de livres pour tenir une heure. Alors pourquoi l'hymne américain, l'hymne japonais, c'est un petit mixte là que je vous ai proposé, car c'est une émission spéciale Pearl Harbor, parce qu'en fait on hésitait entre une émission sur la littérature américaine ou une émission sur la littérature japonaise, et comme nous ne sommes pas arrivés à trancher, nous allons faire une émission sur des romans au choix de l'un de ces deux pays. Une émission donc Pearl Harbor, ce qui colle d'ailleurs à l'actualité. Hein, Pauline?
Ah oui, oui,
toi
oui.
Toi qui t'y intéresses?
Oui, on est en plein dans... On peut pas vraiment fêter ça, mais...
Alors pas du tout, ce n'est pas du tout pour ça. Merci Pauline, je savais que tu ne trouverais pas. Non, c'est que le premier ministre japonais Shinzo Abe vient d'annoncer qu'il se rendra à Pearl Harbor. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement japonais se rend sur ce lieu triste de l'histoire mondiale. Donc voilà.
Ah, pas du tout de commémoration alors.
Non, mais peut-être. Mais peut-être qu'il y va pour une commémoration.
Bon,
je sais pas.
J'aurais essayé.
Allez, ok. Bon, ben on va vous présenter des livres un peu. Oh, ben tiens, quelqu'un arrive. Ah, mais c'est Valérie.
Le pain.
Non, c'est... Non. Ah, tiens, je me suis trompé de micro, tu disais.
Sayonara, hello.
Absolument. Alors, c'est bien, tu n'es pas la dernière Valérie, mais tu répondras à cette invective après t'être débarrassée de tes vêtements.
Tous ?
Non, pas tous. Okay. Le blouson suffira. Pauline, allez, on va commencer par toi, au hasard. Au hasard, c'est toi qui vas commencer. Alors, États-Unis ou Japon, qu'est-ce que tu nous proposes?
Je vais commencer par Japon. Je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais commencer avec Les pleurs du vent de Medoru Na Shun.
Shun, on dit en japonais.
Shun, ok. Mm. Aux éditions Zulma. Alors là, pour le coup, on est en plein pendant la. Après la guerre 39-45, on est à Okinawa. Donc, au lieu de.
Karaté.
De karaté, oui, tout à fait, c'est ce que je voulais dire.
C'est ça.
Et donc, dans ce petit village de l'île d'Okinawa où on se trouve, on ne sait pas quel village exactement, bref, il y a une falaise, avec en haut de cette falaise un ossuaire datant de la guerre 39-45. Et en haut, dans cet ossuaire, il reste uniquement un crâne. Un crâne tout seul posé sur la falaise. Et quand le vent souffle, ce crâne pleure. Donc, au fil du temps, là, on est dans les années 80, je dirais. Donc, le crâne est devenu complètement presque sacré. Voilà, c'est pour tous les habitants du village, la mémoire de la bataille d'Okinawa. Et un beau jour, on a Fuji, un journaliste, qui arrive, qui est un peu obsédé par la mémoire d'Okinawa, qui travaille que là-dessus depuis des années, et donc qui a entendu parler de ce crâne et qui veut en faire un reportage. Face à lui, il se retrouve avec les sages du village qui sont plutôt pour, puisque ça pourrait amener des touristes, ça pourrait faire travailler la mémoire d'Okinawa. Mais on a Seikichi, un agriculteur qui est important dans le village, qui lui est totalement contre, mais vraiment c'est virulent. Et voilà, il s'accroche beaucoup avec notre journaliste. Et petit à petit, au fil du livre, on se rend compte que il y a des raisons qui expliquent l'obsession de Fuji, le journaliste, pour la bataille d'Okinawa. Et pour Seikichi, il y a la même chose. Cette virulence, elle vient pas de nulle part. C'est pas juste il est contre pour protéger le crâne. Il y a quelque chose derrière. Donc on apprend que Fuji était un jeune soldat pendant la guerre 39-45 et que Seikichi, lui, était déjà sur Okinawa et essayait de survivre face au bombardement américain. Ils ont passé plusieurs mois cachés à voler de la nourriture. Bref, voilà, il y a toute une histoire sur la bataille qui reste dans leur esprit. Alors, ce que j'aimais dans ce livre, c'est pas seulement un livre sur le traumatisme de la guerre, comme il y en a beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose sur comment la mémoire peut être vraiment étouffante, comment une vie dans cette période-là peut rester dans l'esprit et vraiment pourrir la vie, entre guillemets, et obséder complètement quelqu'un. En plus de ça, en plus du thème qui est intéressant, l'écriture de Medoru Nashun est superbe. C'est vraiment, il y a des passages hyper poétiques, il y a des moments sur la nature, c'est presque mystique. Donc il y a vraiment une écriture qui est superbe. Il y a des passages vraiment très beaux, très bien écrits. Et à côté de ça, sur la guerre... il est originaire d'Okinawa. J'espérais que j'aurais une petite bio, mais elle n'est pas là.
On a encore perdu Nico.
Le responsable biographie n'est pas là.
Lui, il est en retard total.
Dans
15 jours. D'ailleurs, on fait un petit appel. Je te coupe. Si jamais il y a des auditeurs ou auditrices qui veulent participer à cette émission, qui sont passionnés de littérature, n'hésitez pas à nous appeler à la radio ou par mail, à nous contacter pour venir grossir un peu cette équipe de Par le bout de la lorgnette au 04 66 31 59 68. Enfin, vous trouvez tous les contacts sur internet, sur 48fm.org. sinon, vas-y Pauline, excuse-moi.
C'était la page pub de 48fm.
Voilà. C'est la fin de l'année, on voit que les organismes sont fatigués, on a perdu Héloïse, on sait pas où elle est. Bon, Nico, ça fait un moment qu'on l'a perdu. Je crois qu'il arrive pas à se remettre de sa vie, en fait.
C'est ça.
Sa vie le fatigue. Il fait la crise de la quarantaine, peut-être.
C'est
aussi
possible, hein. Un peu décalé, mais...
Ouais, c'est ça.
Non mais voilà, j'ai quasiment terminé parce que c'est quand même c'est un très joli roman, c'est très court et c'est à lire. Medoruma Shun, Les pleurs du vent chez Zulma, et je conseille pour... c'est de la belle littérature japonaise avec ce qu'on aime dans la littérature japonaise qui est toujours très...
C'est toujours très poétique.
Ouais, avec en plus cet aspect... Guerre 39-45 qui est très intéressant et qui est un point de vue qu'on voit peut-être un peu moins. Le point de vue japonais et le point de vue mémoire et étouffement de la mémoire de la guerre qui est très intéressant.
D'accord, donc ce crâne qui pleure, c'est symbolique, on n'est pas dans la science-fiction, on part pas
non
dans...
non ouais. Non non, c'est oui
ouais. C'est pas le crâne histoire, de cristal
pas,
d'Indiana Jones ce truc
c'est
comme
pas,
ça
c'est rien de mystique, c'est vraiment un crâne qui pleure.
Ok, super. Encore un beau livre chez Zulma, alors.
Oui, ouais.
Ils sont forts chez Zulma.
Ouais, sont forts.
Ils sont doués.
Ouais. D'accord, c'est parti pour le Japon. Est-ce que Valérie aurait un livre nous provenant des USA?
J'en ai un qui vient des USA, mais comme Héloïse l'a mis dans sa librairie un coup de cœur, peut-être ça aurait été sympa qu'elle soit là pour compléter mes propos, mais c'est pas...
Oui, mais on va changer.
On peut faire ça parce que tu n'en as pas sur les États-Unis pour l'instant.
Moi, je suis Japon aussi.
Tu es Japon aussi. Ouais. Mais moi, j'en ai un de chaque. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'Héloïse puisse compléter. Mais
si elle vient, on ne sait pas. Elle s'est peut-être perdue. Hein.
Peut-être qu'elle s'est perdue.
Elle est peut-être partie au Buisson, croyant qu'on faisait une émission là-bas.
Sur le terrain de foot du Buisson.
Sur le terrain de foot du Buisson, d'accord. Peut-être.
Ils ont rebouché les trous.
Je ne sais pas. Pourquoi? Donc, mais c'était pas au Buisson,
pas au
champ
Buisson.
De patates. Mais non, pas du tout, c'était à Remaze.
Ah, je croyais que c'était au Buisson, pardon. Désolé les gens du Buisson.
Et ceux de Remaze, du coup, parce qu'on en a remis une couche. Si, tu présentes ou je présente, alors, vu que c'est le Japon?
Écoute, moi j'ai bien envie de présenter.
Allez,
le
vas-y.
Mien, tellement il est bien.
Tu étais à l'heure, je te laisse la parole.
N'hésite pas.
Oui, alors
tellement il est bien, tellement il se sent bien, parce que ce n'est pas un livre, mais la dernière fois on a parlé des meilleures trilogies qui étaient en trois livres, et aujourd'hui je voudrais vous parler de la meilleure pentalogie que j'ai jamais lue, donc en cinq.
En oiseau.
En oiseau, c'est ça. Voilà. En cinq livres. Donc c'est un petit coffret dans lequel il y a cinq livres, donc d'où le nom de pentalogie.
Ah, c'est Babel.
Oui,
ils font souvent ça, Babel, avec les livres japonais. Ouais. Moi, j'avais Yoko Ogawa qui était pareil, dans un petit coffret comme ça. C'était une trilogie, par contre.
Et c'est, voilà, moi, c'est une penta.
Une penta.
Mais il les fallait, même. Elle aurait pu en faire 8, ça aurait été formidable. Donc, il s'appelle Le poids des secrets. Et donc, en fait, tout au long des 5 tomes, c'est de Aki Shimazaki. Elle va décliner une partie dans chaque livre de la même histoire qui va être racontée à des époques et des protagonistes différentes. Donc, il va y avoir dans chacun des livres des redites, mais en fait, ça reste passionnant parce que c'est vu de notre œil et c'est raconté par un autre narrateur. Donc, en faisant raconter ces histoires, des fois, on va être sur l'époque contemporaine, on va faire des bonds sur le livre d'après, des dizaines d'années en arrière. Et à aucun moment, en fait, l'histoire va s'essouffler, même si on retrouve parfois les mêmes personnages, des fois jeunes, des fois âgés, des fois en personnage secondaire. Il y a toujours l'intérêt pour le livre. Donc le livre s'appelle, le coffret des cinq livres s'appelle Le poids des secrets. Donc on se doute que c'est l'histoire de secrets de famille un peu, complètement cachés, complètement mis de côté. Et en plus de cette histoire de secrets de famille qui fait le fil rouge, on voit aussi, on va découvrir un peu la réalité des heures japonaises, des heures sombres, en fait, comme le nationalisme pendant la Seconde Guerre mondiale, comme la honte sur les familles si jamais le mariage n'est pas fait dans les règles de l'art, l'importance des soldats, en fait, qui, par exemple, un soldat qui était capturé pendant la Seconde Guerre mondiale, s'il ne se suicidait pas, c'était la honte sur toute sa famille, toute cette société japonaise traditionnelle et qui a plus ou moins essayé d'étouffer tous ces carcans pendant des années. Et grâce au livre, en fait, ça va être des révélations et tout le monde va un peu se libérer. C'est chacun, à un moment donné, dans les cinq livres, qui va raconter donc ses histoires. Donc le premier livre, c'est Tsubaki, ça veut dire camélien en japonais. C'est l'histoire, ça va être la plus importante, c'est à partir de là où tout va partir. C'est l'histoire de Yukiko. Qui est sur le point de mourir et qui va laisser à sa fille, qui est déjà bien adulte, une longue lettre où elle va raconter, enfin, pour la première fois, l'histoire de la famille. Donc Yukiko, elle apprend à sa fille Tsubaki qu'elle a été victime donc, du bombardement de Nagasaki, qu'elle y vivait avec ses parents et qu'elle partageait une maison mitoyenne avec une autre famille, les Takahashi, qui avait un fils qui s'appelait Yukio. Donc c'est un peu le même nom, prénom, avec lequel, bon, forcément, adolescente, elle avait noué un amour, son premier amour adolescent.
Pourquoi forcément ?
Parce que sinon, on n'en parlerait pas. Je ne parlerai pas de Yukiko et Yukio en vous disant... jusqu'au jour, elle va découvrir qu'en fait, son propre père, donc à cette dame maintenant, mais qui était jeune à l'époque, était en fait le père, l'amant de sa mère... et donc le père de son amour d'adolescent.
Ah, son frère.
Son demi-frère,
Son demi-frère.
Voilà. Donc c'est un premier mensonge, en fait, qui aura de lourdes conséquences dans le livre. Alors, je prends un raccourci très court, mais qui va l'amener à utiliser...
Raccourci vaut mieux qu'il soit court.
Mais là, ça va être très, très court. Hein. Ah. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser de questions, c'est qu'elle va devoir utiliser le cyanure sur son propre père.
Pourquoi ?
Justement, il y a toute une intrigue derrière.
Voilà.
C'est pas gênant de savoir qu'il va se passer ça, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se passent. Et donc ça, c'est le premier livre.
Du cyanure au camélia.
C'est camélia, en fait. C'est son nom de Tsubaki. Ça veut dire camélia. À la petite fille qui raconte... à la fille qui raconte l'histoire de sa mère, Yukiko. Voilà. Après, il y a énormément de personnages. C'est la chose la plus complexe dans tous ces livres. C'est qu'ils sont passionnants, donc on invite tous les lire les uns après les autres. Mais c'est de se rappeler qui est qui, d'arriver à passer d'une époque à une autre sans mélanger les pinceaux, parce qu'il y a beaucoup de noms japonais aussi.
Et qu'on n'a pas l'habitude, et du coup, on se perd. Ouais.
C'est vrai que c'est compliqué dans la littérature japonaise.
Ouais. Et alors, je vais arrêter sur la présentation des livres, juste pour dire, le texte est très... enfin, l'écriture est très légère, elle n'est pas du tout compliquée. Et du coup, l'auteur, elle se permet de mettre beaucoup de mots en japonais à l'intérieur, qui, même si on ne comprend pas le mot en lui-même sorti de son contexte, ça se passe vraiment très très bien, ça s'assimile bien.
C'était bien, mais j'ai rien compris.
Non, mais non, parce que c'est des
mais
mots,
c'était trop bien.
Si tu veux, bah, de savoir qu'elle prépare un bento pour son fils, bon, si tu ne sais pas ce que c'est un bento, tu peux comprendre qu'il te dit...
Mais il n'explique pas dans le livre...
Si, ah. Alors, il y a un petit lexique à la fin. Ouais, alors, les puristes diront qu'un lexique à la fin, ce n'est pas génial.
C'est pas génial.
Moi, de temps en temps, je me reportais au lexique, mais plus par curiosité que vraiment pour...
Oui, pour comprendre le texte. Comprendre.
Ouais, on n'a pas besoin. Et en fait, et je trouvais que la traduction était vraiment très bien faite. Et quand j'ai voulu me renseigner, je me suis dit, il faut rendre un peu gloire au traducteur. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était elle qui avait écrit directement en français. Ah. Puisque l'auteur, elle est japonaise, mais en 1981, elle est partie vivre donc, au Canada. Et elle vit maintenant à Québec, donc, côté donc, français. Et elle écrit tout ça en français. Et ça... Donc je pense que ça permet une approche un peu plus simple pour nous, lecteurs francophones. Malgré tout, avec tout le Japon qui réside en elle, en fait, avec toutes ses traditions. Et ça permet d'avoir cette espèce de douceur japonaise avec une compréhension, j'allais dire, accessible pour les francophones.
Donc c'est une seule histoire d'une famille en 5 livres, ouais. Où chaque livre correspond à un regard particulier d'un des personnages, c'est ça, si
j'ai
bien compris ?
Non, ça va être un regard. Alors des fois, ça va être la même famille, donc la famille de Tsubaki Camélia. Après, le deuxième tome, c'est Amaguri, ça veut dire pas lourde. C'est l'histoire vue par Yukiko, donc le demi-frère, qui va... Mais à une autre période.
Amaguri.
Amaguri, c'est pas lourde, ouais.
Voilà. C'est une bonne insulte, ça.
Amaguri, ouais, c'est sympa.
Louise est en retard, voilà. Je vais dire alors l'Amaguri.
Mais c'est très beau, en fait, l'histoire de la palourde, c'est qu'en fait, les palourdes se ressemblent énormément. Et en fait, l'idée de ce titre-là, c'est parce que les enfants s'amusent à rechercher deux palourdes absolument identiques pour reformer une paire, en fait. Une fois qu'ils ont mangé les palourdes, ils reconstruisent les... La coquille, c'est une métaphore en fait pour dire que dans toute ta vie, il n'y a qu'une seule personne qui te correspond et c'est ton amaguri. Mais c'est très beau, c'est tout le côté japonais qui ressort. Et l'histoire, elle est simple, mais il y a plein de petites choses très belles par rapport à la nature. Enfin, c'est un peu ce que tu disais, Pauline, des descriptions sur la nature, sur un jour de neige où justement ils vont au bord de la rivière sous les sols pleureurs. Enfin, c'est. Wow, c'est vraiment...
Et puis, c'est des images qui peuvent paraître un peu faciles ou même niaises au départ. Et puis finalement, moi, dans mon livre, et j'ai l'impression que c'est la même chose dans le tien, c'est très bien fait, c'est pas du tout dans cet esprit-là, c'est pas niaisou. C'est...
Non, ça prend son sens.
Oui, en fait, complètement, oui.
Et c'est vraiment très, 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 très beau. Donc effectivement, ça va être des points de vue de tous ces personnages. Le troisième livre, Tsubame, c'est l'hirondelle. C'était le surnom qui était donné à un prêtre missionnaire qui vivait au Japon. Et c'est son histoire à lui, mais l'histoire d'un de nos personnages qui, à un moment donné, a vécu dans cette église et a fait se rencontrer deux autres personnages. Et il y a un lien, et donc il va y avoir des redites, mais avec des points de vue différents. Et c'est très, très beau. Vraiment, c'est...
Ça couvre quelle période ?
Ça va commencer, si tu veux, début 1900, puisqu'on va voir les tremblements
le
de terre, va avoir Nagasaki, jusqu'à aujourd'hui, en fait, si tu veux. C'est sur trois générations.
D'accord.
Avec les Coréens qui ont fui, donc qui seront persécutés au Japon. Enfin, et au milieu de cette beauté, de cette poésie, on apprend, ou on réapprend, tout ce qui a pu se passer pendant ces périodes-là au Japon. Et ce côté vraiment dur des Japonais, parce qu'elle y va pas de même morte comment dire, elle a quand même un œil critique en disant oui, les Américains, parce qu'on a dit qu'on faisait une spéciale Pearl Harbor. Hein,
oui, c'est ça.
Oui, les
si tu avais été là au début de cette émission, tu aurais vu, tu aurais entendu plutôt
J'ai
un beau jingle.
J'ai juste entendu les hymnes.
Ah,
du coup,
bah,
voilà. J'étais dans ma voiture, je me suis arrêtée pour me recueillir.
Est-ce que tu es... Voilà, c'est ça.
Et après, je suis remontée, je suis arrivée. J'ai entendu que ça. Et si tu veux, l'auteur, elle est japonaise, elle pourrait avoir un parti pris, elle l'a, hein, puisqu'elle a sa tradition, mais elle va aussi être critique envers son propre peuple, en disant attention, nous, ce qu'on a fait dans nos colonies, c'était pas beau à voir, et notamment, on était quand même assez fous, on a une armée qui est assez. qui est tellement patriote des fois qu'elle en devient inhumaine. Enfin, elle arrive à être aussi assez critique sur ça. Donc Tsubame, c'était le troisième livre, c'était l'Hirondelle. Alors moi, ça a été mon préféré, celui-là. Après, il y a Vasurenaguza, c'est la fleur de Myosotis. Et là, c'est le point de vue du papa adoptif de Yukiko. Le petit garçon qui était né, j'allais dire, hors mariage, qui après va être adopté par un homme va épouser sa mère et donc va adopter du coup son fils. Et là, ça va être le livre sur vraiment les traditions familiales. C'est-à-dire que cet homme, il était issu d'une famille très, très riche, très, très notable, enfin très, très traditionnelle. Et il va enfin oser s'opposer à sa famille. Et ça va être le début, en fait, un peu d'une révolution en même temps au Japon, puisque, voilà, ça commence. On va commencer à se rebeller envers les traditions, des choses comme ça qui sont vraiment étouffantes. Mais dans le livre, on voit à plusieurs reprises, il regrette. Et même à la fin du livre, on l'entend parler adulte, où il dit « J'ai quand même fait beaucoup de mal à mes parents en acceptant ce mariage, alors qu'il était, il vouait un amour inconditionnel à son épouse. » On sent quand même que, justement, le poids des traditions, le poids des...
Oui, même quand tu décides de t'en détacher...
Voilà, pèse énormément. Et donc ça, c'est le troisième livre. Le quatrième, c'est Otaru. Le cinquième, pardon, c'est Otaru, c'est la Luciole. Et alors là, ça va clore complètement le livre. Moi, c'est celui qui m'a... pas le moins plus, mais celui que j'ai trouvé le plus simple. Et grosso modo, c'est l'histoire donc de la grand-mère, si on se place d'un point de vue contemporain, qui va expliquer à sa petite fille pourquoi les lucioles doivent faire attention à ne pas tomber dans l'eau sucrée. Et en fait, c'est de la métaphore pour dire, voilà, jeune fille, attention, ne vous laissez pas attirer par les hommes mûrs et mariés, vous risquez de vous brûler les ailes, ce qui était arrivé donc à un des personnages, donc il s'était retrouvé femme seule avec un enfant. Voilà. Donc c'est tout ça qui fait la beauté donc de ce livre. Donc c'est simple, c'est épuré, il n'y a pas de fioritures. On en apprend énormément sur la culture japonaise. Et il y a une émotion qui se crée au début du livre et qu'on n'arrête pas jusqu'à la fin.
Alors il faut préciser, parce qu'on dirait que tu parles de... d'un livre, enfin d'un coffret qui fait 800 pages, et c'est très court en fait.
Oui, chaque livre fait à peu près 100... Oh, remarque, chaque livre fait plus de 100 pages, il y en a 5. Donc,
c'est des petits formats, hein,
ouais,
ce format
pas,
de poche.
Voilà. Moi, je... Bonjour, Héloïse.
Salut.
Salut, Héloïse. Et alors, qu'est-ce qui... Héloïse.
T'étais où?
Non, mais c'est quoi cette émission? Chacun arrive quand il veut, là. Valérie, elle arrive un quart d'heure en retard. Toi, 20 minutes. Et heureusement, quand il y a le choc avec Nico, avant. Il n'arrive pas. Et heureusement qu'on est là avec Pauline. Hein.
On a fait ce qu'on pouvait.
Hein, on a fait ce qu'on pouvait. Non, Héloïse a beaucoup travaillé en ces périodes de fête.
Oui, oui, j'ai beaucoup de travail et voilà, et je tiens bon. Mais tu vas y arriver.
Oui, ça va bien se passer.
Ouais.
Et tu es une stagiaire aussi.
Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je suis en retard. Je lui faisais passer un oral ce midi.
Mais tu l'entraînais à un oral ou...
Oui, on était avec son professeur, on lui faisait passer son oral pour son BTS. Donc c'était une note qui comptait pour son BTS. Donc c'était important.
D'accord. Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'elle a réussi?
Ça a bien marché, je pense.
D'accord. Ah, tu sais pas.
On a pensé.
J'ai pas trop le droit de le dire.
Mais... D'accord. Ok. Alors,
Donc voilà, moi ce coffret, donc, c'est ce que j'avais dit à Héloïse, en fait, c'est que il m'arrive de temps en temps de faire une infidélité à la lorgnette, et c'est la librairie donc, de Florac, c'est Solène Jouet qui me l'avait conseillé et qui m'avait dit qu'elle avait lu, je peux le raconter, je pense qu'elle ne m'en voudra pas, qu'elle avait lu tous les soirs, pendant sa grossesse, elle était arrêtée, tous les soirs elle avait lu un des 5 livres et que ça lui avait apporté un bien fou. Et c'est vrai qu'elle me l'avait conseillé. C'était des très bons conseils.
Donc, alors que si elle avait lu La grossesse de Yoko Ogawa, ça aurait été complètement différent, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui.
C'est ton livre.
Non, ce n'est pas mon livre. Non, j'ai déjà présenté Yoko Ogawa, j'y ai pensé. Babel, qui on rappelle, c'est Actes Sud, hein, Babel.
C'est la collection de poches d'Actes Sud.
Ouais. Ouais, toujours très, très beau coffret. Voilà. Alors, pour l'instant, 2 livres japonais présentés. Tu veux que je te laisse arriver? Tu veux que je présente mon livre?
Comme tu veux, oui, vas-y. En plus, les Américains, c'est bien ton truc, quand même.
Exactement. Donc, je présente aujourd'hui un livre japonais. Allez, on va faire un petit jeu. Écrivain japonais, il était pressenti pour devenir prix Nobel de littérature
Murakami.
Cette année. Je suis...
Murakami.
Eh oui, mais c'est pas lui que je vais vous présenter, c'est un homonyme. Ce n'est pas Haruki Murakami, mais Ryu Murakami qui n'ont aucun lien de parenté. Non, ils n'ont aucun lien de parenté. Alors, pourquoi Ryu Murakami, me diriez-vous ?
Pourquoi Yuri Murakami ?
Pour la couverture ?
Merci de cette excellente question, Valérie. Ce n'est pas pour la couverture. Je vous parlerai de la couverture tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, c'est pas Babel
c'est
aussi.
C'est très représentatif du livre, la couverture. C'est une photo d'un jeune japonais avec
d'une jeune. On ne dirait pas, mais oui, c'est un peu trash. Et qui apparaît dans le livre, en fait.
Et Piquier, oui, pardon, mais Piquier, c'est une maison d'édition qui édite en fait que des livres traduits de l'Asie, donc Japon, Chine, Vietnam, etc. Donc ils sont vraiment spécialisés et ils ont des choses très belles.
Oui, alors ça fait un moment que je l'ai acheté ce livre. Hein. Ça existe toujours cette maison d'édition ?
On en parle
souvent.
Oui, on en parle souvent.
Ouais.
Ok, très bien. Donc je réponds à ton excellente question, pourquoi Valérie, pourquoi ? Mais tout d'abord parce qu'il développe des thèmes qui m'intéressent, à savoir.
Rock'n'roll.
Exactement. Merci. Et parce qu'il colle au thème Pearl Harbor. Pourquoi, me diriez-vous ?
Mais parce qu'on.
Ça parle de la génération d'après-guerre, non ?
Absolument pas.
De tous les Américains qui sont restés au Japon parce qu'ils ont trouvé ça fun.
En partie.
L'influence américaine, du coup.
Non. Alors, non moi, comme je savais qu'il n'y avait pas Nico, j'ai fait une petite bio de l'auteur, ce qui explique pourquoi Pearl Harbor. Parce que Ryo Murakami, de son vrai nom Ryunosuke Murakami, est né dans les années 50 à Sasebo, dans la préfecture de Nagasaki, une ville portuaire abritant une base navale des forces américaines des États-Unis. Hein, Pearl Harbor, base navale, vous suivez. Mmh. Oui, subit très tôt l'influence de la culture occidentale, du coup. Il a été influencé jusque dans ses années de lycée, toujours à Sasebo. En 68, alors qu'il est étudiant à l'école secondaire de la préfecture de Sasebo, Kita, il assiste à la protestation de la Fédération japonaise des associations d'autogestion étudiante contre l'arrivée du porte-avions nucléaire américain Enterprise One. Pearl Harbor.
L'Enterprise, c'est pas dans Star Trek aussi.
C'est ce que je me disais, moi.
Si. Mais lui, il a vu arriver l'Enterprise, tu vois.
Ouais, c'était bien marrant.
Alors, l'année suivante, du coup, il est suspendu de son école après avoir installé une barricade sur le toit de l'établissement en guise de protestation contre la présence de l'armée américaine. Pearl Harbor. Du coup, ce climat de tension d'après-guerre, ces années de jeunesse corrompues par l'Amérique, dira-t-il, imprégneront profondément l'imaginaire de l'écrivain. Je vais finir sur sa bio parce que c'est un lien avec le livre, avec le thème. Après ses années de lycée, il s'installe à Tokyo, dans la ville de Fusa, où se situe la Yokota Air Base, base américaine. Tiens,
ah bon,
étrange.
Deuxième.
Ah oui,
coïncidence.
Notes, ils sont partout, coïncidence.
Je ne crois pas.
Et donc, en 1976, à 24 ans, il publie son premier roman, Bleu presque transparent, que je vais vous présenter aujourd'hui, qui obtient la même année le prestigieux prix Héloïse. Ouais, c'est dur, hein. C'est Akutagawa, c'est l'équivalent du prix Goncourt au Japon, et il obtient également le prix Kunzo du nouveau talent à 24 ans, ce qui est pas mal, hein. C'est comme si aujourd'hui en France, à 24 ans, on obtenait le Goncourt, ce qui est. Je sais pas si ça a dû arriver, oui.
Oui, des prix prestigieux très jeunes. Il y a notamment Françoise Sagan, c'était pas le Goncourt, mais elle était toute jeune quand elle a eu son premier prix. Mmh.
Et d'ailleurs, il a été battu par une fille de 21 ans pour ce prix prestigieux. Et il faisait partie du jury, donc c'est assez drôle. Il a voté pour cette personne-là. Donc, un premier roman qui donne le ton à son œuvre à venir, c'est-à-dire une jeunesse décadente immergée dans une culture du sexe, de la violence et du rock. Un succès immédiat au Japon, un roman qui s'est vendu à près d'un million d'exemplaires en 6 mois, qui sera à l'image de l'esprit des thèmes qui seront ensuite développés par Murakami. C'est assez sombre, c'est pessimiste. Il parle d'individus isolés, perdus dans le monde d'Internet, d'enfants marginaux et abandonnés dans l'immensité humaine des métropoles japonaises, des exclus, des mondes parallèles de la prostitution, des bars glauques, voilà. Alors, on parlait de cette littérature japonaise qui est pleine de poésie. C'est pas vraiment le cas de ce livre. Il y a des longs monologues de personnages qui sont extrêmement poétiques, mais
on est loin des cerisiers japonais en fleurs où tu regardes un
oui.
Béga, le tombé des
balours. Ouais. C'est un roman vraiment punk, no future, extrêmement cru, avec des scènes. Enfin, c'est pas à mettre entre toutes les mains, vraiment. Alors en fait, Bleu presque transparent relate en une succession de courts chapitres, c'est vraiment court, quelques journées seulement de la vie d'un groupe d'adolescents, des journées ou plutôt des nuits vides d'espoir d'une génération perdue qui s'abîme dans la destruction. C'est un peu le Trainspotting japonais en 1976 quand même. Sur la quatrième de couverture, il est dit « Dans un Tokyo oppressant, Ryu, Kei et Okinawa payent dans leur corps qui l'urine avec constance l'absence d'âme d'une société et leur déchéance possède la couleur du bleu presque transparent de la pureté. Ouais. » C'est quand même un auteur qui a certains passages quand même poétiques à l'image de ce qu'il fait dans la littérature japonaise. Donc c'est un livre vraiment très clivant où les gens, il y a beaucoup de critiques qui détestent ce livre, qui voient finalement dans la vie dissolue de ce Ryu et de sa bande d'amis une suite de beuverie, toxicomanie, sexe et violence sans intérêt, sinon le scandale. Et d'un autre côté, il y a toute une partie qui a porté ce livre en égérie de la littérature de l'époque, en expliquant que finalement ces poubelles de la société japonaise, comme l'auteur même les nomme, donc ces jeunes un peu perdus, c'est des personnages finalement qui réfutent toute annihilation sociale, des personnages qui cherchent à se différencier, à exister en tant qu'individu, même si leur tentative ne trouve à s'exprimer que dans l'autodestruction, la violence et l'absurde. En gros, dans un Japon qui marche au pas à cette époque, Murakami, lui, sort des individus. Voilà, il dit, eh ben, le Japon, c'est pas un collectif d'humains, c'est des individus à part et certains qui n'arrivent pas à trouver leur salut dans ce qu'on leur impose, dans cette frange de la société, de la jeunesse nippone, qui, malgré une société qui apporte une stabilité matérielle, finalement, pour lui, qui est dépourvue de toute valeur. Voilà, toute l'histoire japonaise, ses problèmes dans la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, pour lui, on a voulu... oublier toutes les valeurs de la société japonaise qui a rapproché à une époque un peu sombre de l'histoire en disant voilà le nouveau Japon, et pour lui c'est pas ça quoi, l'âme d'un individu qui naît là-bas. Donc du coup c'est un livre très trash, avec une écriture très froide, le plus souvent descriptif, donc qui ajoute encore un peu plus au malaise ambiant de certaines scènes. Et d'un côté, voilà, on suit le parcours de Ryu, un junkie de 22 ans qui alterne des séances de défonce et de sexe débridé avec Lily, sa compagne et ses partenaires de galère, et notamment des Américains qu'on retrouve dans ce livre, des militaires de l'armée américaine, avec des sexes vraiment crus. Et d'un côté, derrière cette façade, on voit ce jeune homme qui transpire d'amour pour Lily, qu'il tente malgré tout de protéger, à pas mettre entre toutes les mains. Lily, que l'on retrouve en photo de la pochette de ce livre que l'auteur a fait lui-même, qui s'appelle Ryu, dont le personnage s'appelle Ryu. Et cette Lily, voilà, il finit en écrivant une lettre à cette Lily en disant « J'espère que tu as lu ce livre, j'ai pas changé en l'écrivant, je suis toujours le même, est-ce que tu peux me donner de tes nouvelles ?» Alors je sais pas par contre si c'est autobiographique, je pense qu'il y a une grande partie, mais pas autant cru que qu'il explique dans le livre, sinon il aurait du mal.
Aussi,
Vas-y.
Je sais plus comment elle s'appelle.
On lui fait un effort, Héloïse. On t'attendait pour ça.
Ben, désolé, tu l'as bien noté, non?
Non, je ne l'ai pas noté.
Non, ben voilà, il a écrit une suite avec les mêmes personnages et. Voilà.
Même pas contexte. Une autobiographie,
Mais je sais pas si c'est.
Pense, oui, qu'il y a une grosse part quand même de.
Je pense qu'il y a une grosse part, vu l'histoire de cet écrivain, tout ce qu'il a connu, et voilà ce premier livre qui sort à 24 ans, où le personnage principal s'appelle comme lui. Ça m'étonnerait qu'il était junkie au point où il est décrit dans le livre. Mais bon, les personnages, à mon avis, il y a des liens, et si Lily. Son amour qui est en photo sur la première de couverture, et bien Lily, je pense qu'il devait être un peu junkie quand même.
Ouais.
Voilà, Lily qui a un peu des cheveux de toutes les couleurs et des colliers avec des clous autour du cou. Voilà, j'ai bien aimé, ça a conseillé, ça change de ces livres japonais poétiques qui parlent de secrets de famille sur plusieurs dimensions.
Oui, mais après, c'est vrai qu'au Japon, dans la société, il y a ces deux côtés-là, le côté très poétique, la tradition, les gaïchas, le thé, la cérémonie, les fleurs, etc. Et il y a ce côté aussi vraiment trash de l'ère numérique des prostituées, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment deux côtés très intéressants qui cohabitent au Japon, je trouve que c'est... Et ça donne des belles choses en littérature intéressantes.
Voilà. Et il a écrit également des livres sur la très, très vieille histoire du Japon, qui est extrêmement dure à entendre. Pauline, oui, t'as levé la main ?
Non.
Pardon, je crois.
Il faut lever la main maintenant.
C'est ça. Là, ils ont instauré des nouvelles règles pendant qu'on n'était pas là.
Ouais, mais à deux, tu vois, on se dit, ouais, quand tu veux parler, tu lèves la main. Ouais, il faut s'organiser. Voilà.
Et il faut lire, oui, quand on est ado, c'est bien, à partir de 16 ans. Moi, je l'ai lu quand j'avais 16
ans.
Ce
livre, ouais, il est un peu dur pour 16 ans. Ouais, ouais.
Je sais pas. Moi, je l'ai lu quand j'avais 16 ans, j'ai adoré.
Ok, moi je l'ai lu jeune aussi, mais bon, il y a des passages.
Ah, il faut avoir une ouverture peut-être d'esprit. Ça dépend peut-être d'un environnement dans lequel tu vis. Si tu vis dans le Japon très trad ou si tu vis dans le Japon numérique.
C'est ça, ouais.
C'est peut-être plus, peut-être plus simple.
Ok, bon, ça fait 3 livres pour le Japon. On est mal, hein. J'espère que.
Ouais. Moi j'ai un livre pour les States, mais on va peut-être d'abord faire une pause musicale ou.
Ah oui, c'est 1h06. Qu'est-ce qu'on parle? Ben voilà, on va mettre du Jimi Hendrix pour avoir de la musique américaine.
Super. Hein,
c'est pas mal ça.
Bonne transition. People talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. I'm all sugar, let the good time roll.
The kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. We'll be right back.
Allez, c'est reparti pour la seconde partie d'émission avec alors qui est Héloïse ou qui veut en parler? Héloïse, ça t'intéresse de commencer cette seconde partie?
Oui, pas de souci.
Je te laisse alors.
Parce que je vais parler d'un modèle de vertu aux États-Unis, c'est assez rare.
Ça existe.
Et oui, un vrai modèle. C'est un livre qui s'appelle Le motel du voyeur et donc c'est une enquête de Gay Talese. Gay Talese qui est un vieux monsieur maintenant et qui est un des pionniers en fait du journalisme littéraire, c'est-à-dire qu'il écrivait des livres mais de la non-fiction en fait, mais ça se lit comme des romans. C'est très bien écrit, c'est très recherché au niveau des personnages, des dialogues, etc. Il a écrit notamment un livre sur Joe DiMaggio qui était un joueur de baseball qui a été marié à Marilyn Monroe notamment. Un autre livre sur Frank Sinatra. Et donc celui-ci, Le motel du voyeur, qui est sorti le mois dernier aux États-Unis, donc c'est tout récent aussi aux States, et donc il vient d'être traduit aux éditions du Sous-sol en français. Voilà, donc c'est un livre qui, là, il y a plein de procès en cours aux États-Unis par rapport à ce livre. Ça a fait un branle-bas de combat, parce qu'en fait, un jour, Gay Talese reçoit une lettre chez lui d'un certain Gérald, qui lui explique que c'est un voyeur, que voilà, il est comme ça depuis qu'il est tout petit, il observait sa tante en cachette, etc., se déshabiller, etc. Et donc ce voyeur-là a acheté après sa carrière militaire un motel. Un motel qu'il a aménagé afin d'assouvir sa passion en fait pour le voyeurisme. Donc un hôtel d'une trentaine de chambres, il a mis dans une quinzaine de chambres au plafond en fait, il a percé des trous au plafond. Et il a posé des plaques comme des fausses plaques d'aération. Et donc, pendant 20 ans, ce monsieur, Gérald, a observé la vie sexuelle des Américains à travers le grenier de son motel et à travers cette vingtaine de chambres.
Il faisait rien de mal, il faisait que regarder.
Et figure-toi que c'est quand même hors la loi.
Ah bon?
Valérie.
Mais quoi? Non, mais le mec, il fait ça pendant 20 ans, il regarde, il met pas sur Internet, il met pas.
Ah non,
sur...
non, il a rien fait de tel, non.
Non, mais alors, mais... tu fais pas ça, dis.
Tu vois pas le problème.
Non, un problème, elle.
Et du coup, en fait, il écrit donc Gérald à Gay Talese, il lui raconte son histoire, il lui dit « J'aimerais bien, voilà, maintenant je suis un vieux monsieur, j'aimerais bien que mon histoire soit publiée, en fait. J'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'en fait, ce monsieur Gérald tenait un carnet, et à chaque fois qu'il observait les gens, que ça soit des couples lesbiens, homosexuels, interraciaux, il a observé, mais tous les cas de figure. » Et il tenait un carnet, il s'est pris d'une espèce de il s'est senti investi d'une mission sociologique. Là, j'ai quelque chose sous les yeux, c'est vraiment les gens sont tels qu'ils sont dans le privé, personne ne voit jamais ça en fait, et j'ai la chance de voir ça. Et donc il a écrit un carnet mais qui fait des centaines et des centaines de pages en fait sur ses observations quotidiennes. Voilà, et donc c'est ceci qui est publié, donc il y a des extraits du journal de Gérald et il y a l'analyse aussi du journaliste Gay Talese. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, Gérald et même le journaliste sont embêtés aux États-Unis parce qu'il y a pas mal de procès qui sont en cours du coup. Et
pourquoi de couples qui sont passés
qui se sont fait voir.
Alors non,
de communautés qui disent non, vous généralisez, on n'est pas obligatoirement tous comme ça.
Alors j'ai oublié d'émettre un détail, c'est-à-dire que Gérald un jour par le petit trou d'une des chambres a assisté à un meurtre et il n'a rien fait. Voilà, il n'a rien dit, de peur d'être, qu'on découvre son petit manège dans le grenier, etc., de peur d'être inculpé. Et donc, c'est principalement ça qui choque aux États-Unis. Bon, bien sûr, il y a le côté voyeuriste, etc., mais c'est principalement ce fait-là qui est particulièrement choquant. Voilà. Je peux vous lire un petit extrait, parce que c'est vrai que nous aussi, du coup, en lisant le livre, on devient totalement voyeur.
Ah bah, et puis on est super curieux de savoir.
C'est curieux, parce que c'est vrai que c'est assez glauque, et en même temps, c'est super intéressant. Mmh. C'est vrai que qu'on peut considérer ça comme une étude scientifique, sociologique, un peu détournée, parce que les personnes observées n'étaient pas d'accord. Mais...
Parce que ce qu'ils voulaient voir, c'était purement sexuel ou c'était juste voir?
Oui, ils s'intéressaient principalement aux faits sexuels, oui. tout à fait. Mais enfin, il y prenait du plaisir aussi. C'est, il était voyeur, donc c'était pas juste dans un but scientifique.
C'est voyeur dans le sens. C'est pas juste voyeur, voir ce qui se passe.
La clim a un problème, ça coule.
Non, mais c'est drôle parce qu'il est quand même propriétaire du motel et un jour il observe et il voit un monsieur qui est en train de manger son gros paquet d'ailes de poulet sur le lit et de s'essuyer les doigts sur le couvre-lit. Il peut plus se retenir. Il est tellement énervé de voir ça dans son motel. Il fait imbécile, qu'est-ce que tu fais? Par le plafond, tu vois. Il a failli se faire découvrir à cause de ça, tu vois. Donc voilà, c'est assez...
Peut-être faire des trous dans cette radio. Moi.
Non, surtout, il faut interdire les couvre-lits dans les hôtels.
Oui, déjà. Je suis d'accord.
Alors, donc là, c'est Gérald qui écrit. Donc, c'est la traduction de son journal à lui. « Mon voyeurisme a beaucoup contribué à faire de moi un futilitaire et cela ne me plaît pas du tout de savoir que mon âme est ainsi conditionnée. Il m'est très désagréable de penser que la majorité des sujets sont à l'unisson de ces deux personnes, à la fois en ce qui concerne leur façon de penser, mais aussi dans leur façon de faire. Si notre société avait la possibilité de se trouver dans la position du voyeur, ne serait-ce qu'une seule journée, chacun approcherait immédiatement la vie d'une manière très différente. » Voilà, il y a beaucoup d'observations aussi sur sa condition de voyeur et sur parce qu'il se pose des questions. Voilà,
est-ce qu'il essaye pas de se dédouaner plutôt?
Ben oui, enfin il essaye d'une certaine manière. Il est toujours entre deux eaux. Il est, par exemple, ce qui est drôle, c'est que Guy Italesi, le journaliste, l'a rencontré alors qu'il est aujourd'hui là maintenant. Il est Gérald à l'heure d'aujourd'hui. Il est scandalisé par toutes les caméras qu'il voit partout dans les magasins, tout ça. Voilà.
C'est pas pareil.
Il se sent.
Ah mais c'est le comble.
Voilà.
Ça.
Non mais c'est un personnage vraiment, enfin assez contradictoire dans plein de choses et très intéressant parce que c'est vrai qu'il écrit bien, c'est très bien traduit et Gérald il écrit bien dans son journal, il lui fait ressentir certaines émotions. Il est aussi pour la cause des femmes, il se dit bah tiens, bah, la plupart des couples que je vois, il y a aucun préliminaire, il y a enfin les femmes, les pauvres, on prend pas soin d'elles, enfin parce que là c'était années 70, il a commencé à observer et du coup, il a observé l'évolution des pratiques sexuelles et la place des femmes et la place des vétérans de guerre aussi, comment qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie sexuelle quand on est vétéran de guerre et qu'on est handicapé, enfin toute une misère sociale et toute, enfin, et c'est vrai que c'est vraiment passionnant en fait, même si c'est très dérangeant finalement, mais c'est intéressant. Voilà.
Merci. Ouais. On n'a pas l'habitude d'avoir des livres comme ça.
Oui, parce que finalement tu t'attaches à lui qui est
un peu,
qui,
ouais.
Qui fait quelque chose. Ouais. Mais je sais pas, moi ça me choque pas, mais.
Oui,
mais non, mais il met pas de photos, il met pas de.
Et alors, Valérie, on va pas partir dans un débat comme ça, même, c'est interdit.
Non, mais je suis d'accord, mais c'est un livre. C'est ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il le fait.
Oui, mais c'est un livre avec une histoire derrière.
Oui, mais je suis d'accord, mais peut-être qu'aussi.
C'est pas une fiction.
Est-ce que son journal, il est fidèle vraiment à ce qu'il voit? Est-ce qu'il était aussi accro au voyeurisme que ça? Est-ce qu'il extrapole pas?
Après, si, il extrapole aussi. Il y a des incohérences qui sont pointées par le journaliste dans son journal. Et c'est vrai que le gars s'est pris aussi d'une passion pour l'écriture et qui, je pense qu'il a inventé aussi certaines choses. Enfin, qu'il a. Et mais c'est pour ça que c'est un mélange de plein de choses, ce livre et ce journal. Et c'est.
Tu nous rappelles le nom, l'auteur et
alors,
la maison d'édition?
Le Motel du Voyeur, une enquête de Guy Italesi aux éditions du Sous-Sol.
Et du coup, par contre, Gérald, il a vraiment publié... Enfin, quand il a donné ses lettres, il n'a pas voulu que ce soit fait sous couvert d'anonymat ou quoi que ce soit.
Non, du coup, il s'est dit non, voilà, c'est le moment.
C'était sa thérapie, quoi.
Merci Valérie. Pauline a un super livre à présenter. Elle était là dès le début de l'émission et ça fait exactement 50 minutes qu'elle attend. Pauline.
Ouais. Mais du coup, il est super, il est vachement moins original que le tien, donc il était génial, hein, je le dis quand même.
Bah, c'est pas parce qu'il se passe à Sainte-Eulalie qu'il est moins original. Hein.
Pas exactement à Sainte-Eulalie, mais...
Saint-Denis à Marguerite.
Non, il se passe à Butcher's Crossing, la croisée des bouchers, donc c'est pas mal aussi quand même. C'est un roman de John Williams, donc là, qui ressort en 2016 chez Piranha, aux éditions Piranha, mais qui date de 1960, en fait. Alors, je sais pas pourquoi il ressort maintenant. Je sais pas s'il y a un événement qui explique ou si c'est une redécouverte, tout simplement.
Et pourquoi il est moins connu que d'autres livres qui traitent du même sujet?
Ouais, je pense qu'il y a plein de rééditions de grands classiques américains en ce moment, notamment avec ces maisons d'édition.
Ouais, un véritable coup de cœur. On est, en fait, dans cette histoire à la fin du 19e. On est en pleine période de grosse chasse aux bisons. On arrive...
pleine période de chasse aux bisons. On va s'arrêter là, 19e. Et on rencontre Will, qui est étudiant d'Harvard, qui décide de tout arrêter et de se rapprocher de la nature, une aventure comme on en voit beaucoup. Et il se rend donc au Kansas, à Butcher's Crossing, en espérant rejoindre une expédition de chasse aux bisons. Donc là-bas, il va rencontrer Miller et Charlie Hodge, qui sont des grands spécialistes de la chasse aux bisons. Et ils ont un grand secret, c'est que donc là, bon, le bison s'épuise. Hein, enfin, c'est des chasses énormes à l'époque, ça dure depuis des années et des années. Ils massacrent, mais un nombre de bisons étonnant. Et donc, il y a de moins en moins de bisons, mais Miller leur parle, dans le Colorado, d'une dernière colonie, je ne sais pas comment on appelle, du dernier troupeau de bisons. Ouais. Voilà, bah, c'est... Troupeau, on voit un petit truc, colonie, enfin, c'est vraiment énorme, les troupeaux de bisons. Donc il propose au jeune Will de les rejoindre dans cette expédition, parce que Will a un peu d'argent, donc il va pouvoir acheter les provisions, de quoi partir. Et donc, en échange de cet argent, de cet investissement, ils vont l'emmener dans leur chasse aux bisons. Donc ils prennent aussi un écorcheur, qui est Schneider, donc et, voilà, le spécialiste du bison et du dépeçage, etc. Et ils partent, donc ils vont traverser d'abord le Kansas, une partie du Kansas, pour se rendre dans le Colorado. Ça avec j'ai traîneau qui me vient, mais non, une chariote avec des bœufs et leurs trois chevaux. Évidemment, le trajet, déjà, va y avoir
une
quelques
chariote.
Soucis. Oui. C'est mieux que traîneau.
C'est sûr que c'est mieux que traîneau, surtout l'été.
Pour finalement arriver dans une vallée où il y a effectivement des milliers de bisons. Et là commence la chasse. Et alors là, mais c'est du délire. On s'y croise. C'est ce que je disais avant l'émission, c'est que moi j'en ai rêvé la nuit. Je voyais Miller qui chassait bison sur bison. Enfin, c'est les écorcheurs qui passent derrière et tu t'y vois, tu vois le sang, tu sens l'odeur, tu sens la poudre à canon. Enfin, c'est incroyable l'écriture de ce bouquin. Les personnages sont fantastiques. Là, ce Miller qui est chasseur de bisons et qui chasse pas ni par soif de sang, ni pour simplement pour l'argent. Enfin, on sent qu'il a une véritable âme du chasseur, la prouesse de la chasse. C'est du délire.
Comme Gilbert.
Mais parce que qu'est-ce qu'ils en font de tous ces bisons morts?
Alors en fait,
ils
récoltent les
peaux. Pour la peau et...
Ouais, uniquement
d'accord,
la peau.
Pas la viande.
Ils les
d'accord.
laissent pourrir. Alors voilà, on a ces images de la vallée avec des milliers de bisons, parce qu'une journée de chasse, c'est des milliers de bisons.
Oui, oui, oui.
Et on a cette image de, voilà, des tas de peaux, des ballots de peaux sur le côté, et là, de tous ces bisons qui pourrissent.
Il les chasse à quoi? Au fusil?
Ouais, au fusil. Donc il y a tout ce travail de recharger les fusils, de refroidir le fusil, parce qu'à l'époque, on ne peut pas tirer...
Ah voilà, c'est à quelle époque
fin 19e. Fin 19e.
Oui. Mais du coup, il a été écrit quand, ce livre?
Il a été écrit en 1960. Enfin, il a été publié en 1960, ouais. La première fois, donc j'ai supposé écrit à cette période-là. Mais voilà, alors, je disais, moi, j'aime beaucoup Cormac McCarthy, qui écrit beaucoup sur le Grand Ouest américain, et qui est pour moi très connu, et j'avais jamais entendu parler de ce John Williams, alors que là, on est dans un niveau, enfin, c'est du délire. Ce bouquin, il y a des scènes incroyables, les personnages ou une personnalité qui est le Schneider, là, l'écorcheur, qui est très, très cinglant dans tout ce qu'il dit. Enfin, c'est une ambiance, on y rentre complètement. Et alors, il y a des moments où on est dans l'excitation, d'autres moments on a peur, on a froid, on a tout, quoi. C'est du délire, ce bouquin. C'était génialissime, je le conseille à tout le monde. Si vous êtes curieux du Grand Ouest américain et de la chasse aux bisons, je vois ta tête, Valérie, t'as pas l'air emballée.
Non, c'est tout.
Elle est encore sur le livre d'avant, Valérie. On se dit, mais pourquoi j'ai
mais
pas monté
coup,
un
si,
hôtel
Si on est anti-chasse, etc., enfin, c'est pas mon cas, mais est-ce que ça peut choquer? Est-ce que c'est...
Oui, je pense que ça peut choquer, mais je pense que c'est quand même quelque chose à lire parce que.
Oui, c'est historique finalement.
Ouais, oui, je pense que voilà, sur le côté historique, là, on est vraiment. On rentre dedans, on rentre dans la peau d'un chasseur de bisons et aussi de quelqu'un qui découvre ça. Donc on a tout ce qu'il faut pour la comprendre et on a tout ce qu'il faut aussi pour être perdu avec Will, parce qu'il y a des moments où il se dit mais attends,
qu'est-ce que je fais là,
où je suis, qu'est-ce que je fais, enfin c'est l'horreur. Donc non, c'est vraiment à lire, je conseille à fond.
Dans notre bataille États-Unis-USA, là, tu viens de lâcher une petite bombe.
Ah ouais, gagnant pour
moi. Tu nous rappelles John Williams.
Ouais, Butcher's Crossing, rien que le titre, c'est génial. Aux éditions Piranha.
Allez, Valérie, elle va nous enfoncer le clou là, avec en sortant le gros roman américain que tout le monde attend.
On est à peu près au même niveau que le tien sur le Japon, mais il y a moins de drogue dedans. Donc là, je vais vous parler de Mister Alabama.
Plus de moules.
Plus de moules. Beaucoup plus de moules. Amis de la moule,
vous
allez bonjour.
Arrêter, s'il vous plaît. Bah,
si, quoi, c'est le sujet. Déjà, sur la couverture, il y a le drapeau américain et il y a, à la place des étoiles, des moules. Donc, c'est Mister Alabama par Philip Quinn Morris. Donc, ça se passe à Mud Creek, en Alabama, à l'été 1979. Alvin Lee Fuca est un ancien Monsieur Alabama, Mister Alabama. Il a 28 ans et il n'a qu'un seul rêve, c'est devenir Mister America. Dans le but d'être connu, et en fait, la seule finalité pour lui d'être Mister America, c'est de pouvoir devenir acteur et jouer un film, jouer dans des films avec Burt Reynolds. Malheureusement pour lui, sur un des Mister dans la country d'à côté de chez lui, un agent lui fait remarquer qu'il a éventuellement peut-être un hypothétique problème esthétique qui viendrait se loger sur sa hanche. Alors au lieu de se battre et d'essayer d'avoir un autre avis, son rêve est brisé. Il rentre chez lui, change ses plans, adieu gloire et beauté et beauty building. Retour à la campagne et il va tenter de faire fortune à la pêche aux moules. Oui, je veux toujours y aller maman. Et entre deux livraisons de contrebande de whisky et entre deux cuites mémorables, enfin non pas mémorables parce qu'Alvin se met dans des états pitoyables. Bref, donc avec tout ça, c'est l'Amérique qui est loin... Loin de tout ce qui est beau, de ce qui est ce qu'on pourrait imaginer Mister Alabama, on s'imagine bling bling, paillettes, string et seins refaits. Pas du tout. Là, c'est l'Amérique en boots et à chemise à carreaux.
Enfin, dans l'Alabama, string et seins refaits, je suis pas sûr.
Oui, mais comme on est sur Mister et que le sujet c'était oui, je veux devenir ça, oui. Mister America, on s'imagine que notre héros, ça va être
Sweet
ça.
Sweet Home Alabama. Comme dirait Creedence.
C'est bien placé. Tu aurais pu le mettre à la fin.
Comme je vais le mettre à la fin.
Donc on est plus sur boots, chemise à carreaux, transat sur la terrasse devant un marécage ou un vieux mégot avec un fond de country qui résonne, le vieux chien posé à ses pieds. Donc Alvin devient plongeur de moules et poursuit sa vie entouré d'amis. Alors là, qui méritent le passage, ils sont dingos, ils sont déjantés. Mais malheureusement, un soir de fête, le meilleur plongeur d'entre eux et le meilleur ami d'entre eux, le plus âgé, le plus futé, le plus costaud, le plus solide buveur de toute Mud Creek, le mentor d'Alvin, celui que tout le monde respecte plus que père et mère, le légendaire Johnny Ray, ça c'est un nom prévu d'avance, s'écroule, victime du mal des profondeurs. Alors, il faut savoir qu'ils étaient tous un peu rustres, ils allaient plonger un peu à l'ancienne. Comme ils plongeaient dans une rivière, ils n'écoutaient pas les consignes forcément de décompression ou autre. Mais voilà, la vie d'Alvin s'écroule une deuxième fois après son problème de hanche. Et la nouvelle obsession d'Alvin, ça va être comprendre pourquoi Johnny Ray a pu mourir. Et là, il bascule parce qu'il peut pas être Monsieur Alabama. Il rebascule parce que son meilleur pote vient de mourir. Et là, ça part dans tous les sens. Là, le livre déjà était bien barré.
Déjà, c'était.
Et on part et ça part dans tous les sens. Donc, il se remet à la musculation, il invente des nouveaux exercices, mais aussi loufoque que terrible. Il se met à prendre des stéroïdes comme on boit de l'eau ou pour certains ici du vin, au risque de flirter.
Balance pas
quoi.
Sur Pauline, s'il te plaît.
Pardon, Pauline.
Pas
cool. Au risque donc parents, de flirter avec la mort, mais tout s'écroule autour de lui. La veuve nymphomane de son ex-meilleur pote, feu Johnny Ray, vient s'installer chez lui avec ses deux enfants. Il rate de passer sa vie sans rien faire, donc rien ne va plus. Son meilleur pote, vétéran du Vietnam, Cliff, tombe amoureux de sa sœur, qui est anorexique et reine du stand-up, rien ne va plus. Le shérif découvre des plans de marijuana que Freddy, ancien joueur de baseball un peu parano, fait pousser sur son bateau, rien ne va plus. Voilà, tout part en live. Et malgré ça, après toutes ces crues, ces vulgaires, on a, je pense, au moins un putain par page. C'est malgré tout, bizarrement, avec cette histoire loufoque, barrée, eh ben, l'écriture, elle est toute douce. Elle est, c'est hyper touchant, c'est poignant. On s'attache à Alvin alors qu'il a un comportement autodestructeur. Il est un peu potache. Il est si on le transposait, on pourrait dire cutéreux presque, mais au sens péjoratif du terme. Et pourtant, il est très attachant et on a envie de l'accompagner. Est-ce qu'on a envie de le sauver? Est-ce qu'on n'a pas envie de le voir continuer à faire sa petite vie? Ça pêche au moule, ça prend des dimensions surréalistes. Bref, c'est un livre qui a l'image de son personnage et son lieu de vie, loufoque,
mais paisible.
Voilà. Et ça fait penser, quand t'en parles, ça me fait penser un peu genre au film Forrest Gump avec tout un tas de personnages et
qui ont chacun
un truc un peu barré en eux et parce qu'il y a la pêche à quoi dans Forrest Gump
la crevette.
Ouais, non mais voilà ça
le moment. Sauf que c'est, la pêche à la crevette c'est un passage juste que là ça, c'est vraiment leur c'est vraiment le gagne-pain de cette région. Puisque pendant des années, ils ont vécu de la contrebande de whisky. Et ils continuent. Donc tout se passe. C'est hyper humide parce qu'on est dans des espèces de marécages. Et c'est des gamins qui sont. C'est des grands gamins, mais qui sont pas sortis de chez eux pour la plupart.
Parce que tu dis c'est Mud Creek, c'est Mud ça Creek, Mud, ouais. C'est pas la boue ouais. En anglais.
C'est ça, mais c'est vaseux, en fait. Dans tout le livre, t'as ce vase qui leur colle. Enfin, il y a de l'alcool, il y a des. C'est chouette, hein, vraiment, c'est hyper loufoque. Sur moi, j'étais un peu... Quand j'ai pris le livre, je me suis dit, punaise, Mister America, moi qui ne suis pas forcément très attirée par tout ce
Alabama,
qui est bling-bling.
Mister Alabama, pardon.
Par tout ce qui est bling-bling, je craignais un peu. Et en fait, non, c'est ce côté loufoque qui prend le dessus. Et c'est extra. Et ça se lit très, très vite, par contre. Voilà.
Bien.
Pour les USA.
Allez, merci. Mais
USA,
c'est une heure et demie.
USA.
On est à égalité.
Ouais, je pense qu'il faudra faire un Pearl Harbor 2, le retour.
Ouais,
exactement.
Je pense qu'on va faire ça.
On fera ça. Ouais. Allez, comme on est sympa, avant la fin de l'année, on va vous faire une dernière émission la semaine prochaine, au lieu de dans deux semaines, pour vous donner quelques idées de cadeaux de Noël.
On va donner quelques idées au Père Noël. Oui.
Voilà.
Des fois qu'il n'est pas assez d'inspiration. Pas dire de bêtises.
Exactement. Qu'est-ce qu'il y a, Pauline ? Je dis n'importe quoi,
oui,
c'est ça ?
Oui, elle a eu la trouille. Il n'écoute pas la radio, lui.
J'espère qu'il n'écoute pas, vu nos chroniques. Pas cette émission, les enfants. Ok, allez, une prochaine émission. Et après, on fera bien deux semaines de pause, parce qu'on a le droit d'être en vacances aussi.
Surtout si on en fait deux d'affilée. Alors...
Surtout si on en fait deux d'affilée. Relâche. Et on en a fait deux d'affilée il n'y a pas longtemps non plus.
Donc je pense qu'on va prendre...
Mais avant, on n'en avait pas fait d'un mois.
C'est la faute à Nicolas.
Ça s'équilibre un peu.
C'est la faute à Nicolas. Allez, merci les filles, à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Salut.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.